Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission Initiative solidaire et citoyenne où on a le plaisir d'accueillir Jordan Vial. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Quand on parle de Jordan Vial, on parle bien sûr de la Kabbalah. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au problème du masculin et du féminin.
Merci. Dans cette 18e chronique, je vais vous offrir le regard de la Kabbalah sur le masculin, le féminin, l'anima et l'animus. Chez Carl Gustav Jung, les notions d'anima et d'animus désignent deux polarités intérieures de la psyché. L'anima est souvent présentée comme la dimension féminine intérieure de l'homme, sensibilité, intériorité, imagination, lien à l'invisible, profondeur affective. L'animus est souvent présenté comme la dimension masculine intérieure de la femme, discernement, parole, orientation, force de formulation, capacité de décision. Mais il faut éviter une lecture trop simpliste. Jung ne dit pas simplement « l'homme a un féminin intérieur et la femme a un masculin intérieur ». Il montre que la psyché est faite de polarités complémentaires. Chacun porte en lui une part visible et une part cachée, une part consciente et une part projetée. Lorsque ces polarités ne sont pas reconnues, elles se projettent à l'extérieur. L'homme peut alors chercher son anima dans une femme idéalisée. La femme peut chercher son animus dans une figure masculine d'autorité, de savoir ou de puissance. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une part intérieure encore non intégrée. C'est précisément tout l'intérêt de l'approche de Jung. Elle nous invite à prendre conscience de ces polarités psychiques, à reconnaître nos projections, nos déséquilibres, nos manques, afin de cheminer vers une plus grande complétude intérieure. Ce travail est essentiel, car il permet à chacun de mieux habiter sa propre psyché et d'établir une relation plus juste avec lui-même, comme avec les autres. Mais la Kabbalah propose un changement de perspective. Elle ne s'arrête pas à l'équilibre psychologique de l'individu. Elle remonte en amont de la psyché elle-même. Là où Jung étudie les grandes dynamiques de l'âme humaine, la Kabbalah interroge les lois qui rendent ces dynamiques possibles. En ce sens, elle se présente comme une véritable science des codes de la conscience. Son objet n'est pas seulement de comprendre le fonctionnement psychologique de l'être humain, mais de dévoiler l'architecture fondamentale du réel, les principes qui organisent la manifestation, la relation entre l'invisible et le visible, entre la lumière et ses formes, entre l'unité et la diversité. Dans cette perspective, le masculin et le féminin ne sont plus seulement deux composantes de la psyché. Ils deviennent deux modalités fondamentales de la conscience elle-même, deux fonctions universelles qui président à tout acte de manifestation, depuis la naissance d'une pensée jusqu'au déploiement de l'univers. La Kabbalah ne part pas d'abord de l'homme et de la femme, elle part de la structure même de la conscience. Le masculin et le féminin ne sont pas d'abord des genres humains, ce sont des modalités fondamentales du réel. Donner et recevoir, émaner et contenir, impulser et former, rayonner et révéler. Dans la Kabbalah, le masculin et le féminin ne doivent pas être compris comme des rôles sociaux. Le masculin n'est pas l'homme, le féminin n'est pas la femme. Ce sont deux fonctions universelles. Le masculin désigne le principe d'émission, d'orientation, d'impulsion. Le féminin désigne le principe de réception, de gestation, de mise en forme. Mais attention, recevoir ne signifie pas être passif. Recevoir, dans la Kabbalah, c'est rendre possible l'apparition. Et cela n'a rien d'anodin. Le mot Kabbalah vient de la racine kof, vet, lamed, qui signifie recevoir, mais aussi accueillir ce qui se révèle. La réception n'est pas une attitude passive. Elle est la condition même de la révélation. Car rien ne peut être connu, rien ne peut devenir conscient s'il n'existe pas un espace capable de l'accueillir. Dans cette perspective, la Kabbalah cherche à comprendre comment l'être et le réel deviennent progressivement saisissables et lisibles pour la conscience. Les lettres hébraïques ne sont pas seulement des signes d'écriture, elles sont les opérateurs de cette intelligibilité, les matrices qui permettent à ce qui était invisible de prendre forme, sens et relation. Il est d'ailleurs remarquable que la première lettre du mot Kabbalah, le Kof, Kof, semble déjà porter symboliquement cette dynamique. Sa graphie peut être lue comme l'union de deux mouvements complémentaires, une verticalité descendante qui évoque l'impulsion, l'axe, la direction, image du principe masculin, et une boucle qui entoure, contient et accueille, image du principe féminin. Je vous ai mis sur Radio Bastide la carte du Kof. Vous pourrez vous reporter à l'image. L'une oriente, l'autre enveloppe. L'une initie, l'autre rend possible la manifestation. Ensemble, elles expriment que toute révélation naît de la rencontre entre un principe qui se donne et un principe qui reçoit. Ce n'est probablement pas un hasard si le mot qui désigne la réception, Kabbalah, commence précisément par une lettre dont la forme suggère déjà l'alliance de ces deux modalités. Comme si, dès son premier signe, la Kabbalah rappelait que toute connaissance naît de la rencontre entre ce qui se révèle et ce qui consent à recevoir. Sans réceptacle, la lumière ne peut se manifester. Sans forme, l'impulsion reste indifférenciée. Sans matrice, le germe ne devient pas monde. On pourrait ainsi dire simplement, le masculin initie le mouvement, le féminin donne au mouvement un lieu où se déployer. Le masculin ouvre une direction, le féminin transforme cette direction en réalité vivante. Dans le langage de la Kabbalah, cette relation traverse tout. Les séphirotes, les mondes, les lettres, le souffle, le corps, la psyché et la conscience réflexive. Voyons les codes du masculin et du féminin. Zahar signifie « mâle », la racine du code. Signifie se souvenir, faire mémoire. Le masculin n'est pas seulement celui qui émet ou qui féconde, il porte aussi une dimension de mémoire, ce qui garde une trace, ce qui transmet une empreinte, ce qui rappelle l'origine. Il n'est pas seulement force d'action, il est mémoire orientée. Il porte souvenir du principe. Le masculin véritable n'est donc pas domination, il est fidélité à une origine intérieure. Voyons maintenant le code du féminin. Nkeva. Nkeva. Sa racine, nun kof vet, signifie percer, trouer, désigner, spécifier, nommer avec précision. C'est très profond. Le féminin n'est pas ici simplement ce qui reçoit. Il est ce qui ouvre un passage, un vortex. Il est ce qui creuse l'espace de manifestation. Il est ce qui permet à l'invisible de devenir forme précise. Zahar, le mâle, garde la mémoire de l'origine. Nkeva, femelle, ouvre le passage où cette mémoire peut s'incarner. Le masculin porte la trace, le féminin donne le lieu. Le masculin rappelle, le féminin révèle. Mais entre les deux intervient un troisième principe, souvent oublié et qui est pourtant présent et essentiel puisqu'il apparaît dans le texte code en Genèse 1:27, où il est dit « Il les créa mâle et femelle ». La formule exacte est « Zahar unkeva. Le vav est intégré au mot féminin. Vav est la conjonction de coordination et, et. Il relie sans confondre. Il unit sans effacer les différences. Il établit la relation. Dans la tradition, son nom signifie aussi le crochet, le clou, ce qui fixe deux éléments ensemble afin qu'ils puissent devenir une œuvre commune. Symboliquement, il représente également la semence qui vient féconder la matrice. Non pas comme un acte de domination, mais comme un acte de transmission. Il est ce qui porte l'information vivante d'un pôle à l'autre. Le masculin oriente, le féminin accueille, le vav met en relation. Il est le passage de l'un vers l'autre, le lien qui permet à la mémoire de devenir création, à l'impulsion de devenir forme, à l'invisible de prendre corps dans le visible. On comprend alors que le masculin et le féminin ne sont pas deux réalités opposées. Ils deviennent pleinement eux-mêmes lorsqu'ils sont unis par ce troisième principe de relation. Sans le vav, il n'y aurait qu'une polarité figée. Avec lui apparaît la fécondité, c'est-à-dire la naissance de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ainsi, la Kabbalah ne nous présente pas seulement deux principes, mais une véritable grammaire de la manifestation. Une mémoire qui appelle, Zahar, une ouverture qui reçoit, Nkeva, et un lien vivant qui transmet et féconde, Vav. C'est de cette alliance que naît toute création, qu'elle soit cosmique, psychique ou intérieure. Cette triade, Zahar, Unkeva, me paraît particulièrement féconde car elle dépasse la simple opposition masculin-féminin et introduit la dynamique relationnelle qui est au cœur de la Kabbalah. Elle enseigne que la conscience ne fonctionne pas par séparation, mais par ordre de relation. La tradition biblique ne dit pas seulement qu'il existe deux sexes, elle indique que la création apparaît par polarisation. L'être humain n'est pas créé comme une unité plate, fermée sur elle-même. Il est créé comme une unité relationnelle. Zahar, Unkeva, ne désigne pas seulement deux catégories biologiques, mais désigne une structure de la manifestation. Toute conscience vivante porte ces deux mouvements, une mémoire de l'origine et une capacité d'ouverture au devenir. C'est là que la Kabbalah rejoint, tout en la dépassant, la psychologie jungienne. Chez Jung, anima et animus appartiennent encore à la psyché. Dans la Kabbalah, masculin et féminin appartiennent à la structure même du réel. Ils ne sont pas seulement des contenus intérieurs, ils sont des lois de circulation. Lorsque ces deux polarités, masculine et féminine, se déséquilibrent, elles se déforment dans la psyché. Le masculin blessé devient dureté, contrôle, domination, coupure, volonté de maîtrise. Il oublie qu'il est d'abord mémoire de l'origine. Il devient force sans écoute. Et le féminin blessé devient confusion, fusion, passivité, absorption, perte de limite. Il oublie qu'il est d'abord ouverture structurante. Il devient réceptacle sans discernement. La Kabbalah ne cherche donc pas à supprimer une polarité au profit de l'autre. Elle cherche la remise en juste relation. Le masculin doit retrouver sa fonction d'orientation. Le féminin doit retrouver sa fonction de passage, de vortex vivant. Alors la relation peut redevenir créatrice. En conclusion, le masculin et le féminin ne sont pas des prisons identitaires. Ils sont deux mouvements du vivant. En nous, ils ne cessent de chercher leur juste accord. Le masculin véritable n'écrase pas, il se souvient, il oriente, il garde la trace. Le féminin véritable ne se dissout pas, il ouvre, il forme, il révèle. Lorsque Zahar, Unkeva se rencontrent justement, il ne s'agit plus d'une opposition entre hommes et femmes. Il s'agit d'une alliance intérieure. La mémoire de l'origine rencontre le passage de la manifestation. L'impulsion rencontre la matrice. La lumière rencontre le réceptacle. Masculin et féminin ne sont pas deux êtres séparés en conflit, mais une seule réalité vivante appelée à se connaître elle-même à travers la relation.
Merci beaucoup, Jordan.
Merci, Patrick.
On se retrouve très bientôt.
Merci à
tous. D'autres aventures.